France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir, une édition particulière, on va dire, des informés ce soir. Nous recevons quatre maires de France primés au concours Fier de ma commune, organisé par l'AMF. Avec France Info, nous évoquerons les suites de l'évacuation musclée d'une manif écologiste à Paris. Elle fait débat. La fin des vieux diesels. La mère de Vincent Lambert qui en appelle à l'ONU. Et l'impasse à Bruxelles ainsi que l'affaire du Sea-Watch. Avec nos deux journalistes, François Dorcival, bonsoir.
Bonsoir Jean-François.
Éditorialiste politique à Valeurs Actuelles. Avec vous, Stéphane Vernet, bienvenue, directeur de la rédaction parisienne de Ouest-France.
Bonsoir.
Et nous recevons nos deux maire de France primé, ceux de la première partie de cette émission. Bonsoir à vous Nathalie Niaison.
Bonsoir.
Vous êtes maire PS, non, anciennement PS, vous me l'avez dit,
oui.
Hors micro de Bourg-de-Péage dans la Drôme et une commune lauréate Solidarité. Avec nous également, j'ai le plaisir de recevoir André Tianakoun. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et bienvenue, vous êtes maire d'hiver droite, on va dire ça comme ça aussi, du Tampon sur l'île de la Réunion et une commune lauréate nature et environnement. Vous êtes tous les deux transformés exceptionnellement en informés ce soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Le parquet de Paris ouvre donc une enquête préliminaire, après l'évacuation musclée vendredi par des CRS à coups de bombes lacrymogènes. Vous avez vu sans doute ces images sur le pont de Sully à Paris, de militants du mouvement écologiste Extinction Rébellion. Ce qu'en ont dit ce matin Yannick Jadot, chef de file des eurodéputés Europe Écologie Les Verts sur BFM TV et la garde des Sceaux Nicole Belloubet sur LCI.
C'est indigne d'avoir des jeunes qui se battent pour notre climat, qui se battent pour notre avenir. Et la seule réaction du gouvernement, c'est pas d'agir, c'est de leur balancer des gaz lacrymogènes. Ça, c'est scandaleux.
Il est peut-être aussi paradoxal que les manifestants qui ici faisaient part d'un certain nombre de revendications sur le climat aient enclenché ce type de manifestation, alors même qu'une convention citoyenne sur la transition écologique a été mise en place par le président de la République et permettra précisément à des citoyens de s'exprimer, de demander des mesures qui seront ensuite traduites en texte.
Mais image choquante, vous nous le dites selon
vous ce matin. Oui, je dis image choquante, évidemment, quand on regarde ça, c'est très clairement une image choquante.
Nathalie Niaison, vous qui êtes maire de Bourg-de-Péage dans la Drôme, ces images vous ont choqué également?
Bah écoutez, c'est vrai que de voir des gens se faire gazer comme ça, c'est jamais très agréable. Et puis ça rappelle aussi des moments de violence avec les gilets jaunes il y a encore quelques semaines.
Et surtout dans la Drôme, hein. Oui.
Oui, alors.
Vous avez connu ça sur le terrain.
Oui, oui, mais je trouve que les images que l'on a vues partout en France ont été des images qui nous ont tous heurtés parce que là, on est forcément dans, on est partagé entre le respect de la loi, le respect du droit commun, et puis, le fait de se faire gazer comme ça, c'est quand même assez assez violent pour tout vous dire.
Oui.
Au début, les premières images. En plus, les jeunes ne bougent pas en face. On ne se rend pas compte qu'ils sont en train de se faire.
Alors justement, Stéphane Vernet, les images que l'on a vues, qu'évoque à l'instant Nathalie Niaison, eh bien, François de Rugy, le ministre du développement durable, hier, avait dit qu'il ne fallait pas les extraire d'un film plus long, d'une dizaine de minutes, qu'elles étaient tirées de leur contexte. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne approche?
Oui, j'ai entendu ses explications. Il dit qu'effectivement, la séquence dure 11 minutes et qu'on voit les CRS faire des sommations, demander aux gens de se disperser, ils ne dispersent pas. Et donc, en dernier recours, ils ont recours à la force et donc ils utilisent des lacrymogènes. Bon, le problème, c'est que monter ou pas monter, enfin couper ou pas couper, cette séquence, de toute façon, elle reste extrêmement choquante. Pour en avoir mangé beaucoup des lacrymogènes pendant les dernières manifestations, ça pique très fort, c'est quand même très douloureux. Donc moi, je compatis pour ces gens qui
vous
reçoivent des
gifs.
Mais en pleine figure, à bout portant, c'est effectivement ultra violent. Mais derrière, si vous voulez, il y a la vraie question. Enfin, une question, c'est comment est-ce qu'on assure le maintien de l'ordre aujourd'hui dans notre pays? Comment on fait face à des groupes? Alors, c'est un groupe radical, même si.
Oui, c'est ce qu'a précisé François de Rugy.
Le paradoxe, c'est que c'est un groupe non violent.
Radical, mais non violent.
Et voilà. Ouais. Mais moi, il y a un parallèle, si vous voulez, auquel je pense. C'est en 1900. 1947 en Inde, il y a un petit monsieur qui portait une couverture et qui avait des sandales et qui a réussi à faire plier la grande puissance de l'époque par la non-violence. Mmh. C'était le Mahatma Gandhi. Et il y avait en fait toute la problématique du maintien de l'ordre à l'époque, c'est que face à des gens qui sont non-violents et que vous avez besoin de bouger, quand vous savez plus quoi faire, vous savez pas comment faire, on arrive à ce type d'extrême et l'image, elle est désastreuse.
André Tiennakoun, première question, est-ce que vous-même vous avez été surpris par ces images? Et je rappelle que vous avez été primé nature et environnement. On a la sensation aujourd'hui que les manifestations, alors là il s'agit de climat, vont se multiplier désormais.
Je pense que l'État est devant sa responsabilité. Il ne nous appartient pas, en tant que maire, de nous immiscer dans les problèmes de maintien de l'ordre. L'État doit prendre les mesures qui s'imposent. Par conséquent,
Vous ne voulez pas le commenter, ça. Mais sur les manifestations, là, en l'occurrence, c'est contre l'inaction climatique. Je cite ces manifestants. Que diriez-vous? Est-ce que ces manifestations, selon vous, vont se multiplier?
Je pense que nous sommes dans une société où la liberté de tout le monde doit être préservée et que l'inaction ou pas, il n'appartient pas à un maire de commenter la politique de maintien de l'ordre public de l'État.
Je comprends.
Que cela nous dépasse un peu. Si c'était un problème qui se posait à un maire, à ce moment-là, on aurait envisagé peut-être d'autres solutions, peut-être par la négociation, mais il y a
C'est compliqué à jauger. François Dorcival, sur ce qui s'est produit sur le pont de Sully.
Ce qui s'est produit, et Mme Loison le disait il y a un instant, ça se compare beaucoup aux gilets jaunes. Et c'est vrai que les souvenirs de violence et de grenades lacrymogènes, c'est pas des grenades lacrymogènes qui sont jetées là par les forces de l'ordre sur les manifestants, ce sont des gaz, tout simplement. On a eu des séquences infiniment plus violentes que celles qu'on voit là, infiniment plus violentes, des deux côtés d'ailleurs. Rappelez-vous, au mois de janvier ou au mois de février.
C'est peut-être parce qu'on a peut-être plus envie de les revivre.
Alors,
ça a pu choquer, oui.
Oui, on n'a plus envie de revivre ça, certes, mais c'est aussi parce qu'on avait eu toutes ces images de violence que aujourd'hui on considère que celles-là peuvent être choquantes, mais qu'elles ne sont pas du tout au degré de ce que l'on a vu précédemment. Et naturellement, elles provoquent les grands cris des leaders verts, à commencer par M. Jadot, ce que je comprends très très bien.
Allez, 20h10 sur France Info, rappel de l'info avec vous, Léo Teicher.
Le groupe Conforama prévoit la suppression de 1900 postes l'année prochaine en France. Une quarantaine de magasins vont également fermer selon la CGT et Force Ouvrière. Le plan de restructuration de l'enseigne d'ameublement leur sera présenté demain. Déjà 500 000 signatures pour l'organisation d'un référendum sur la privatisation des aéroports de Paris. C'est 10% du total exigé, mais la procédure est donc dans les temps. Elle dure jusqu'à mars 2020. Et si vous voulez vous aussi la signer, ça se passe sur le site du ministère de l'Intérieur. Le Parlement de Hong Kong évacué par la police anti-émeute ce soir, des manifestants l'occupaient depuis plusieurs heures qui s'opposent toujours à un projet de loi d'extradition vers la Chine. Une petite nuit de repos avant de s'y remettre, les 28 États membres de l'Union européenne reviendront à la table des négociations demain à Bruxelles. 20 heures de discussion n'ont pas suffi hier et ce matin pour désigner les futurs dirigeants de l'UE. Le petit garçon de 7 ans renversé il y a 3 semaines à Lorient est sorti du coma, mais son état reste inquiétant selon la famille. Son cousin de 9 ans n'a lui pas survécu à l'accident. Le chauffard qui les avait renversés est mis en examen et écroué. Et puis les 180 000 billets ont trouvé preneur pour les demi-finales et la finale de la Coupe du Monde féminine. 3 matchs qui se joueront à Lyon. Et donc, à chaque fois, le stade de 60 000 places sera plein.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Puisque l'on parle de lutte contre le dérèglement climatique, c'est un peu un des effets de la canicule. Les véhicules estampillés vignette critère 4 sont désormais bannis de Paris, de la Petite Couronne, de 8h à 20h. Allez, en clair, tous les diesels d'avant 2006 sont concernés. Ce sont donc les pauvres qui trinquent. Question posée sur Europe 1 ce matin à Benjamin Griveaux, candidat à la candidature parisienne de La République En Marche.
Nos villes fabriquent des handicapés respiratoires à vie. On ne peut pas continuer comme ça. Et en même temps, la transition écologique, elle coûte cher. Et l'année qui vient de s'écouler en a été la démonstration. Donc il faut pouvoir accompagner.
Elle coûte cher aux plus pauvres.
Accompagnée.
Elle coûte cher aux plus pauvres.
Avec les primes à la conversion qu'a mise en place le gouvernement, ça c'est pour les particuliers, accompagner aussi les professionnels.
Stéphane Vernet, ce sont les pauvres qui trinquent et ces villes se transforment, ces centres-villes, en ghettos de riches peu à peu.
Alors le fait que les centres-villes de certaines villes se transforment en ghettos de riches, oui, ça existe, mais c'est pas forcément lié au diesel, à l'automobile. Il y a bien d'autres choses qui entrent en jeu, notamment à Paris. On parle aussi aujourd'hui de l'encadrement des loyers, donc voilà, bien. Par exemple. Mais effectivement, ce type de mesure vise à empêcher un certain nombre de voitures anciennes de rouler dans la capitale et dans d'autres villes. La vérité, c'est que la plupart des Parisiens n'ont plus de voiture depuis très longtemps. Et en réalité, ceux qui viennent à Paris en voiture, c'est surtout des gens qui habitent en première ou en deuxième couronne, qui viennent pour le boulot. Et effectivement, ils n'ont pas toujours des voitures dernier cri. Et on a une double injonction problématique. C'est qu'il faut bien faire quelque chose, puisque Yannick Jadot évoquait 67 000 morts prématurées à cause de la...
Je ne sais pas où il a trouvé ce chiffre, mais enfin bon.
Oui, mais c'est un chiffre qui circule.
Mais
toujours, on a déjà eu cette discussion. Et Patrick Ollier, lui, parle de 6 000 morts, je crois, prématurés, ou 6 600 morts sur Paris. Donc effectivement, il y a la nécessité aussi d'agir pour réduire ces problématiques de pollution de l'air. Est-ce que c'est la bonne méthode? Moi, je pense que ça fait partie des solutions. Mais effectivement, comment on fait pour qu'elle ne s'applique pas aux gens déjà les plus fragilisés? Derrière, on a vu ce que ça avait donné avec la crise des gilets jaunes. Ça, c'est la vraie question. Donc les aides pour changer de voiture, les primes à la conversion évoquées par Benjamin Griveaux à l'instant, elles sont, à mon avis, elles sont clés dans le dispositif. Mais il faut que ce soit des vraies aides et qui permettent de faire la bascule et pas des mesurettes qui en fait ne permettent pas de changer de véhicule.
Nathalie Niaison, l'automobile, ça vous parle, hein, à bord de péage, j'imagine.
Oui. Alors bon, nous, heureusement, on est loin de tout ça. Mais enfin,
malgré tout, vous voyez une forme d'inégalité sociale dans ce qui se produit aujourd'hui.
Bien sûr. Et puis, je trouve que c'est complètement faux. Du jour au lendemain, on interdit aux gens d'entrer dans Paris avec leur voiture. Pourtant, vraiment la cause écologique me concerne, m'intéresse, et je suis pour qu'on mette des choses en place. Mais là, c'est l'écologie sanction. En fait, on se retrouve avec l'interdiction de rentrer dans Paris. Mais qu'est-ce que l'on met en place concrètement? En fait, le changement climatique, il est là, il est en train de se faire. Il faut mettre des choses en place, mais accompagnons les gens. Là, on leur interdit de prendre leur voiture pour aller travailler.
Vous trouvez ça trop brutal?
Extrêmement brutal.
François Dorcival.
Premièrement, les voitures en question qui ont ce critère numéro 4 et qui sont donc antérieures à 2006, elles ne peuvent rouler que déjà à deux conditions. La première, elles ont toutes passé un contrôle technique. Et le contrôle technique est suffisamment rigoureux pour interdire aux moteurs qui sont extrêmement polluants de ne pas tourner. Donc il y a ce contrôle. Deuxièmement, les mêmes conducteurs doivent être assurés. Donc ce que je veux dire, c'est que la discrimination porte exclusivement sur l'âge de la voiture. Pourquoi les conducteurs qui ont des voitures de ce type-là les conservent-ils? Pourquoi les conservent-ils?
Ils n'ont pas le choix.
Parce que généralement, ils n'ont pas le choix. Et donc, on leur dit, à Paris, attendez, ici, c'est fermé. C'est fermé, c'est la ville des bobos riches, et donc, vous êtes exclus et expulsés par deux choses, en effet, le prix du logement, le prix du mètre carré, le prix des services, etc., plus le fait que de la préfecture de police vous impose cette barrière. J'ajoute, symboliquement, je suis allé voir Air Paris aujourd'hui, c'est l'institution qui a 6 millions de capteurs pour vous dire la pollution de l'air.
Et qui désormais va décider du déclenchement ou pas de mesure.
Eh bien, le déclenchement tombe si bien qu'aujourd'hui, nous sommes à un niveau faible de la pollution de l'air dans Paris. Donc c'est le jour choisi, effectivement, 1er juillet, c'est un jour administratif, pour interdire à ces véhicules d'entrer dans Paris. Donc nous sommes entrés, là oui, dans un autre monde.
André Tiennakoun, je ne sais pas si ces préoccupations concernant l'automobile vous touchent particulièrement sur l'île de La Réunion. Il n'y a peut-être pas des centres urbains aussi denses que la région parisienne, mais je rappelle que vous avez été primé, vous, pour nature et environnement. Peut-être vous pourriez en dire deux mots. Au passage, quelle est la nature du prix que vous avez reçu des mains de l'AMF aujourd'hui?
Eh bien, tout d'abord, je veux dire que le problème de la circulation à La Réunion est aussi crucial qu'à Paris.
C'est la même
chose. Parce que le transport public est moins développé. Et nous avons un enjeu qui est celui du volcan. Je pense que si l'énergie géothermie à mettre en œuvre, c'est ce que nous possédons, qui proviendrait du piton de la Fonnaise, et qu'il faudra dans l'avenir rendre cette île totalement autonome. Et
vous voulez dire exploiter ce que vous, au fond, donne la nature, c'est le volcan. Oui.
Eh bien, oui, parce que si le volcan nous donne demain de l'énergie, on pourra supprimer toute énergie fossile qui sont importées, en particulier 800 000 tonnes de charbon de terre qui viennent d'Afrique du Sud, premièrement. Deuxièmement, pour ce qui concerne la contribution de la commune du Tampon à développer donc la protection du changement climatique, c'est celui de mettre en place un corridor écologique de 36 km sur deux rangées d'arbres endémiques qui comprend quatre spots qui rassemblent donc selon leur degré d'altitude partant de 400 mètres à 1700 mètres, un corridor qui permettra d'une part de sauver les plantes endémiques, de développer ces plantes endémiques au travers des mesures que nous allons mettre en place, soit par le développement in vitro, et enfin mettre en place un dispositif qui permet de sauver la production de miel de qualité exceptionnelle à La Réunion à partir des plantes endémiques que nous disposons et qui doit être sauvée puisqu'une grande partie a déjà disparu.
Et c'est pour cela que votre commune a été primée. Nathalie Niaison, encore un mot avec vous. Au fond, si les vieux diesels, est-ce que c'est vieux 2006, seront exclus des cœurs de ville, Paris et peut-être ailleurs. Désormais, est-ce qu'on risque pas de les retrouver en fin de vie ou en deuxième existence, eh bien, dans nos régions, dans nos campagnes?
C'est pour cela que je pense que cette mesure est un pansement sur une jambe de bois. C'est qu'il faut prendre les choses dans leur ensemble, sur l'ensemble de notre territoire, voire même au niveau européen, mondial. Enfin, voilà, il faut travailler plus en profondeur sur ces sujets.
Allez, 20h20 sur France Info. Nous marquons une nouvelle pause avec le rappel de l'info et vous, Léo Téchère.
Avec cette question ce soir, pourquoi gazer des manifestants pacifiques à bout portant? Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire après cette intervention musclée des CRS vendredi dans la capitale. Du gaz lacrymogène pulvérisé à 20 cm du visage des écologistes d'Extinction Rébellion. Le ministre de l'Intérieur avait demandé des explications ce week-end. Nouvelle manifestation des urgentistes. Demain à Paris, le collectif Interurgence parle de deux dernières lignes droites du mouvement national de grève entamé il y a 3 mois et demi. Les avancées obtenues sont encore insuffisantes pour les syndicats. La capitaine du Sea-Watch veut répondre à toutes les questions. Carola Racketeux est entendue par un juge italien ce soir en Sicile. Berlin espère sa libération. Elle avait été arrêtée pour avoir accosté de force avec 40 migrants samedi dernier dans le port de Lampedusa. Il ne restait qu'un mois et demi avant les vendanges, mais la canicule est passée par là. Des milliers d'hectares de vignes brûlées dans l'Hérault. Les producteurs de melons, de pommes et d'abricots sont également touchés. Un numéro d'urgence est mis en place pour ces agriculteurs du département. Et puis Adrien Rabiot signe à la Juventus de Turin. Le milieu de terrain était en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Il n'a plus joué depuis le 11 décembre dernier à cause d'un conflit avec son club.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
C'est le nouvel appel de Viviane Lambert aujourd'hui depuis l'ONU à Genève, après que la Cour de cassation a ouvert la voie à un nouvel arrêt du maintien en vie de son fils Vincent en état végétatif depuis lundi.
Mais là, je crie tout haut que Vincent, nous voulons l'assassiner. C'est le vrai mot. Pourquoi ne pas nous entendre? Vincent est un être humain. Il n'est pas un objet, on lui met la tête sous l'eau et c'est dramatique.
François Dorcival, nous évoquons régulièrement sur ce plateau ce dossier douloureux qui déchire une famille et divise les Français. La plus haute juridiction française qui a cassé cette décision de la Cour d'appel de Paris qui avait ordonné, souvenez-vous, le 20 mai, la reprise de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert, c'est la fin des recours juridiques selon vous?
Mais non, puisque la mère de Vincent Lambert est à Genève. Si elle est à Genève, c'est devant une instance des Nations Unies. Et on se rappelle que le recours qu'elle avait formé devant les Nations Unies, devant un comité de la défense des droits de l'homme aux Nations Unies, était une énième procédure qui a été suivie, en effet, par les magistrats de la Cour d'appel, lesquels ont été démentis par ceux de la Cour de cassation. Nous sommes là dans l'espace public, et donc tout ce qui est judiciaire est public. Est-ce que cette affaire méritait de passer dans l'espace public comme elle est devenue? C'est ça la question fondamentale qui nous est posée. Oui. C'est une question d'intimité au plus profond de cette famille qui, hélas, est déchirée entre la femme et les parents. Il y a une question à laquelle personne ne répond encore aujourd'hui, c'est pourquoi Vincent Lambert est-il maintenu en quelque sorte en otage dans cette chambre, dans cet établissement, alors que d'autres établissements seraient susceptibles de l'accueillir? À cette question-là, je n'ai pas de réponse.
Stéphane Vernier, c'est un dossier qui divise les Français selon vous?
Bah, c'est déchirant, et puis c'est devenu un vrai sujet, un phénomène de société. Ça pose plein de questions, notamment sur le respect de la parole et le fait de pouvoir exprimer aussi ses volontés par rapport à ce genre de situation auquel on ne pense jamais, puisque quand on est bien portant, en bonne santé, on ne s'exprime pas forcément sur le sujet. Et du coup, bah, le jour où malheureusement vous retrouvez dans cette situation-là, c'est finalement tout le poids, toute la charge se reporte sur la famille, et quand elle est divisée, déchirée, c'est le terme qu'a utilisé François, qui est le bon mot en fait, bah les choses deviennent inextricables. C'est ce à quoi on assiste. Et puis on est aussi dans un vide juridique assez phénoménal, ce qui explique toutes ces batailles à tous les niveaux, parce que Vincent Lambert, il est pas en fin de vie. Donc du coup, on est en droit français, on est.
Il n'est pas en fin de vie, c'est vrai.
Mais non, vous
faites bien de le rappeler.
Il a un cœur qui fonctionne.
André Tianakoun, vous avez un regard, vous, en tant qu'élu, ou peut-être même en tant que personne, sur cette affaire qui, au fond, n'en finit pas.
Bien, nous, les maires, nous sommes confrontés à des situations parfois très délicates, parce qu'il arrive que certaines personnes âgées qui ont connu le maire demandent à voir le maire avant de mourir. Voilà. Et vous avez des gens qui voudraient partir et cesser de souffrir, cesser d'être à la charge des enfants, cesser d'être à la charge de la famille, et qui voudraient partir et qui prient pour partir. Moi, j'estime que c'est un problème qui concerne la personne. Vous avez des gens qui disent « moi, je préfère partir sans trop souffrir », et il y en a d'autres qui meurent sur place en se desséchant et en mettant à contribution toute la famille. Alors, je pense que c'est une question qui est grave. Oui. Je trouve que la justice de notre pays, la loi de notre pays n'est pas assez avancée dans ce domaine. Et je pense que l'individu, devant la fin de sa vie, a droit de faire son choix librement.
Nathalie Niaison, sur cette affaire Lambert, cela fait 10 ans que cela dure pour Vincent Lambert. Il n'est pas considéré comme étant en fin de vie. Ça pose un problème quand même pour la société.
Ah oui, ça pose bien entendu un problème. Et peut-être que le vrai sujet aujourd'hui, au-delà de la situation de Vincent Lambert, c'est le spectacle qui est donné autour de ça. On en parle régulièrement dans les journaux et on a de l'information qui arrive de toutes parts, de la famille, de l'épouse. Et c'est un déchirement que d'entendre tout ce qui se passe autour de lui, finalement, quelque part. Presque, on finit par l'oublier, oui. Tellement il y a de batailles dans la famille.
Vous avez raison de le rappeler. Nathalie Niaison, puisque vous allez nous quitter, hein, ça va être la fin de la première demi-heure pour nos deux premiers maires de France. Juste quelques mots avec vous, maire anciennement PS, hein, de Bourg de Péage dans la Drôme, commune lauréate Solidarité, c'est-à-dire
oui. Eh bien, j'ai mon trophée, là.
Pour ceux qui nous écoutent, Nathalie Niaison avait venu avec son trophée.
Oui, il est là. Eh bien, en fait, nous avons été primés parce que nous avons mis en relation notre restauration scolaire et les associations qui sont sur le champ du caritatif, notamment pour lutter contre le gaspillage. Tout ce qui n'est pas consommé par les enfants, tout ce qui n'est pas, bien entendu, entamé, ouvert, tout ce qui peut être redistribué, eh bien, on le récupère et on l'apporte directement aux associations caritatives de Bourg-de-Péage, ce qui fait qu'on ne jette plus et on permet à 180 personnes de bénéficier de ces denrées non utilisées.
En tous les cas, tous les deux, hein, Nathalie Niaison, maire de Bourg-de-Péage, et vous, André Etienne Akoun, maire du Tampon sur l'île de la Réunion, les expériences que vous avez décrites, eh bien, devraient inspirer le niveau national. Il faudrait faire remonter un petit peu tout ce qui se fait dans nos communes, dans nos régions. Merci à tous les deux. Nous accueillerons deux autres maires lauréats dans la deuxième partie des Informés de France Info. Nous parlerons également de ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas produit, justement, à Bruxelles. À tout de suite.
Chérie, t'es prêt à reprendre des couleurs ?
Oh que oui !
Alors on y va. Maillot, lunettes, crème solaire ?
Ok.
Les billets de train ?
Prêt.
La réservation d'hôtel ?
Y avait plus d'encre pour imprimer.
Mais je t'avais dit de prendre le forfait HP Instant Ink.
L'abonnement de ta sœur pour imprimer gratuitement jusqu'à 15 pages par mois ?
Bah oui, HP Instant Ink. Tu imprimes gratuitement jusqu'à 15 pages par mois et les cartouches sont livrées avant qu'on soit en panne.
HP Instant Ink, le premier forfait d'impression sans engagement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/instantink.
Quand il fait chaud, on aime se calfeutrer à l'intérieur, volets fermés. Mais l'air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur. Alors procurez-vous un ventilateur purificateur Dyson PureCool. Il vous rafraîchira avec de l'air purifié, en éliminant plus de 99% des particules aussi fines que les virus, pour que vous ne les respiriez pas chez vous. Dyson PureCool. Ventile un air purifié, pas un air pollué. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
La météo, les prévisions avec vous, Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
Prévoyez un temps orageux ce soir et la nuit prochaine entre le Massif central et la région Rhône-Alpes en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté et le sud de l'Alsace. Attention, ces orages seront localement violents vers la région centre-est avec de fortes précipitations, de la grêle et des rafales de vent proches de 100 km par heure. Demain matin, le ciel sera nuageux de la Nouvelle-Aquitaine au Massif central et jusque vers le sud du Jura et le Massif alpin avant une reprise d'un temps instable l'après-midi, se traduisant par un régime d'averses et d'orages, des orages localement forts entre le Massif central et la plaine languedocienne. En revanche, vous profiterez d'un bon ensoleillement dans les autres régions. Côté température, les maximales afficheront difficilement 20 degrés en bord de Manche, comptez 23 à 30 degrés ailleurs et jusqu'à 38 dans le sud.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Julien Langlais.
Bonsoir Jean-François. La police anti-émeute de Hong Kong a repris ce soir le contrôle du Parlement envahi par des manifestants quelques heures plus tôt et qui avait déployé dans l'hémicycle un drapeau de l'époque coloniale britannique, et ce après une nouvelle journée de manifestation le jour de l'anniversaire de la rétrocession de l'île à la Chine. Le gouvernement pro-Pékin de Hong Kong dénonce l'extrême violence de cette intrusion. L'Union européenne appelle ce soir au dialogue. L'accord sur le nucléaire iranien est-il menacé ? L'ONU, en tout cas par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres, a fait part de sa préoccupation après le dépassement par l'Iran de la limite imposée à ses réserves d'uranium enrichi. L'ONU appelle Téhéran à tenir ses engagements pour préserver cet accord. Alors qu'une grande partie de la France suffoque, un peu moins 13 départements du Sud-Est sont encore concernés par la vigilance orange canicule. 6 départements sont en alerte face au risque de forts orages dans l'Ain, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. La canicule et ses conséquences sur l'emploi, l'Observatoire international du travail basé à Genève a fait le calcul. D'ici à 2030, le réchauffement climatique pourrait provoquer la perte de 80 millions d'emplois dans le monde. L'Europe n'est pas épargnée. Jérémy Lanche.
80 millions d'emplois perdus parce que les gens ne peuvent plus travailler à cause de la chaleur, ça veut dire 2400 milliards de dollars en moins pour le PIB mondial. C'est l'équivalent de la richesse produite par le Royaume-Uni en une année. L'OIT parle de stress thermique dans les cas où la chaleur est telle que le corps subit des dommages physiologiques. Tout dépend du taux d'humidité, mais ça arrive souvent aux alentours des 35 degrés. Des températures enregistrées ces derniers jours en Europe et qui devraient être de plus en plus fréquentes. Travailler les volets fermés et la climatisation poussée à fond n'aura donc plus rien d'exceptionnel. L'écrasante majorité des heures travaillées perdues le seront dans le secteur de l'agriculture. L'Asie du Sud et l'Afrique sont particulièrement touchées. Mais toutes ces données pourraient être en deçà de la réalité, car l'OIT a retenu le cas d'un réchauffement contenu en dessous des 1,5 degrés à la fin du siècle, conformément à l'accord de Paris. Un objectif de plus en plus intenable au rythme où vont les émissions de gaz à effet de serre. Genève, Jérémy Lange, France Info.
Un mouvement de grève symbolique avait lieu aujourd'hui dans les EHPAD et chez les aides à domicile pour réclamer plus de moyens et dénoncer les conditions de travail. Des personnels de maisons de retraite se sont d'ailleurs rassemblés devant le ministère de la Santé à Paris. Une délégation a été reçue par un conseiller de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Le groupe Conforama prévoit de supprimer 1900 postes en France l'année prochaine, annonce ce soir de la CGT de Force Ouvrière, alors qu'un plan de restructuration doit être présenté demain matin. Et puis le Français Adrien Rabiot s'est engagé avec la Juventus de Turin. Il sera présenté au club demain, 20h33. Les informés, Jean-François Aquili.
20h-21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Avec François Dorcival, éditorialiste politique à Valeurs Actuelles, avec Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest-France, et avec nos deux maires, ceux de la deuxième partie des informés primés, ce soir au concours Fier de ma commune avec l'AMF et France Info. J'ai le plaisir de vous accueillir, Claudie Méjean, bonsoir. Maire PS, hein, vous êtes socialiste, vous le restez, PS de Brame, c'est dans l'Aude, commune distinguée famille et jeunesse. Et avec vous, James Chéron, vous êtes maire UDI de Montreux-Fault-Yonne en Seine-et-Marne, lauréate, donc la commune hein, numérique. Voilà pour les présentations.
Bonsoir.
Bonsoir à vous et bienvenue. Un échec, une image pas sérieuse de l'Europe. Faute d'accord, eh bien le sommet sur les postes clés à Bruxelles va devoir se poursuivre. Demain, on écoute ce qu'en a dit Emmanuel Macron, le président de la République, pas très content à la mi-journée.
Notre crédibilité est profondément entachée avec ces réunions trop longues qui n'aboutissent à rien. Nous donnons une image de l'Europe qui n'est pas sérieuse. Je souhaite donc à l'issue de ce processus, d'abord, nous prenions le temps qu'il faut pour nommer la bonne équipe. Celle qui permettra d'avoir des réunions mieux préparées et d'accéder à des solutions concrètes. Mais ensuite que nous réfléchissions aussi à la simplification de nos procédures et à une avancée beaucoup plus forte, à la fois plus démocratique et plus efficace de notre fonctionnement collectif. Je suis aussi dans ce contexte plus que sceptique sur toutes celles et ceux qui nous expliquent que l'avenir de l'Europe est dans un nouvel élargissement quand on n'arrive pas à se mettre d'accord à 28. Et là aussi, je serai intraitable sur le fait que je refuserai toute forme d'élargissement avant une réforme en profondeur de notre fonctionnement institutionnel.
Je commence avec vous, James Chéron, maire centriste de Montreux. Il est en colère, le chef de l'État, il l'exprime, c'est assez rare finalement.
Je crois qu'il a raison, et en même temps, ça n'est pas une surprise. Nous l'avons dit pendant les élections, la campagne pour les élections européennes. Nous élisons des députés européens qui, au fond, ne décident de rien. C'est le seul parlement au monde qui n'a pas l'initiative parlementaire. Et au fond, ce sont les tripatouillages intergouvernementaux qui, aujourd'hui, ne réussissent pas. Nous sommes effectivement en situation d'échec à désigner un président de commission et une commission, un président du Conseil et un président du Parlement. Le vote des citoyens, des électeurs de l'Union européenne ne sert pas à prendre les décisions réelles qui sont, je crois, soustraites à l'exercice
vous
démocratique.
Vous voulez dire qu'on promène les citoyens européens et ensuite ça se passe ailleurs, quoi.
Je veux dire qu'au fond, on est dans un système intergouvernemental, c'est-à-dire que ça fait un certain nombre de décennies qu'on ment aux citoyens européens.
Vous ne dites pas que le Parlement ne sert à rien quand même ce soir.
Le Parlement européen ?
Oui.
Moi, j'aimerais, et l'UDI a défendu pendant la campagne des élections européennes, que le Parlement européen puisse avoir un droit d'initiative, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas dans toutes les démocraties modernes.
François Dorcival, le chef de l'État, était assez peu diplomatique, puisque, au fond, il a évoqué plusieurs personnes qui n'auraient pas facilité les accords parce qu'elles avaient des ambitions. Il ne les a pas citées, quand même, tout de même.
Oui. Non, mais je comprends très, très bien ce que dit le chef de l'État, mais nous sommes en démocratie. Il faut pas s'étonner. Je suis d'un avis légèrement différent du vôtre concernant les élections.
James Chéron, oui.
Oui, monsieur le maire. Pourquoi ? Parce que le poids des élections qui viennent de se dérouler, nous l'avons directement dans le fait qu'il soit difficile, délicat, d'obtenir immédiatement une nomination, et les principales nominations, d'autant qu'on y met de plus en plus de critères. Des critères de genre, des critères géographiques, et évidemment, des critères politiques. Si ça se passait au Parlement européen, il en serait de même. Il faudrait constituer des majorités, si ce qui va se passer d'ailleurs, des majorités d'un moment, sur un texte ou sur une nomination. Et là, ben, c'est naturel, c'est la démocratie. Ouais. Il se trouve que les peuples européens ne sont plus aujourd'hui social, démocratiques, chrétiens. Les socialistes d'une part et les démocrates chrétiens d'autre part qui formaient le groupe central de qui tout émanait.
Stéphane
Vernet,
ça
a changé.
Qu'est-ce qui coince au fond ?
Ah bah, ça a été bien évoqué par François Dorcival à l'instant. Il y a plusieurs. En fait, c'est un lot. C'est-à-dire qu'il y a quatre postes qui veulent négocier ensemble en même temps. Et ils mettent des critères croisés, qui sont des critères politiques, qui sont des critères géographiques, qui sont des critères de parité. Je reprends les termes que vient d'utiliser François. Et c'est tout à fait ça. Et personne n'est d'accord parce que vous avez finalement, au sein du Conseil européen, vous avez des chefs d'État qui représentent les trois tendances qui sont majoritaires à trois désormais au sein du Parlement, qui sont les libéraux, enfin dans l'ordre, le PPE, oui. Les sociaux-démocrates et les libéraux. Mais vous avez aussi les souverainistes avec le groupe de Visegrád qui, par exemple, n'a pas voulu du compromis autour de Frans Timmermans, le Hollandais. Donc, et chacun veut imposer sa partition. Oui. Mais le paradoxe, pour revenir sur les propos de Monsieur le Maire, c'est que à la fin des fins, c'est le Parlement oui. qui va tout débloquer. Parce que le Parlement, en fait, je vous rappelle qu'il y a eu déjà un premier Conseil européen le 26 mai. Le 26 juin, pardon, qui n'a pas abouti, les choses ont été reportées en disant il faut qu'on aboutisse avant le vote du Parlement. Ça ne marche pas, donc on se donne encore demain pour aboutir. Mais s'ils n'aboutissent pas, le Parlement, lui, il élit son président mercredi.
Donc c'est lui qui donne le.
Eh ben oui, c'est eux qui vont donner le tempo. Si les chefs d'État n'arrivent pas à se décider, c'est les parlementaires, c'est les députés européens, finalement, qui vont débloquer la situation en faisant leur choix.
Claudie Méjean, je vois que vous nous observez avec beaucoup d'étonnement. Je dirais presque vu du département de l'autre. Je vous rassure, j'ai moi aussi mon ancrage dans ma région. Hein.
On est tous pareils.
Les récentes élections devaient déboucher sur une sorte de changement de vie au niveau européen. Est-ce que pour vous, quelque chose a changé?
Vu de l'Aude et vu de la ville de Bram, pas vraiment. Et effectivement, je crois que peut-être que je vous regarde effectivement avec un air un peu ébahi, mais je crois que c'est un peu le regard des Français sur les institutions et en particulier sur cette institution européenne. Je crois qu'on ne comprend pas ce qui se passe et on aurait envie, et je crois que les Français ont vraiment envie, en tout cas moi c'est ce que j'entends dans mon village de 3500 habitants, on a envie que les choses soient simples et que nos gouvernants agissent et qu'on comprennent ce qui se passe. Et aujourd'hui, effectivement, on est dans une incompréhension la plus totale, et certainement ce qui nous met aussi dans une colère importante.
Allez, 20h40 sur France Info, nous marquons une pause. Le rappel de l'info avec vous, Léo Téchère.
Un comité central d'entreprise qui devrait faire des dégâts demain chez Conforama. Les syndicats s'attendent à y apprendre 1900 suppressions de postes et la fermeture de 32 magasins. Une nouvelle enquête pour la police des polices. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire après l'intervention musclée des CRS vendredi dans la capitale. Des militants écologistes et pacifiques aspergés de gaz lacrymogène à bout portant. Des gilets jaunes mis en examen pour incendie volontaire. 7 personnes soupçonnées d'avoir mis le feu à un bâtiment public de l'URSSAF. C'était le 4 février dernier à Mont-de-Marsan. La police de Hong Kong reprend le contrôle du Parlement ce soir. Les manifestants évacués après plusieurs heures d'occupation. Ils y ont déployé le drapeau de l'époque coloniale britannique pour bien montrer leur indépendance par rapport à Pékin. Les manifestants opposés à un projet de loi facilitant justement les extraditions vers la Chine. Les Nations Unies préoccupées ce soir concernant les stocks d'uranium iranien. L'Iran annonce avoir dépassé la limite fixée par l'accord nucléaire de 2015, accord fragilisé depuis le retrait des États-Unis l'année dernière. Et puis la sensation du jour à Wimbledon s'appelle Cori Gauff, la joueuse n'a que 15 ans et s'est qualifiée pour le deuxième tour en battant Venus Williams, plus de deux fois son âge puisqu'elle a 39 ans. Novak Djokovic et Simona Halep se sont également qualifiés aujourd'hui, contrairement au Français Pierre-Hugues Herbert.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous évoquions les blocages à Bruxelles et c'est dans ce contexte que Carola Rackete, la capitaine du Sea-Watch, comparaissait devant la justice italienne. Vous le savez, après avoir accosté vendredi à Lampedusa avec une quarantaine de migrants à bord du navire humanitaire de l'ONG allemande, Sébastien Chenu, pour lui, il faut raccompagner tous ces migrants chez eux. Les arguments du porte-parole du Rassemblement National, invité de Territoire d'Info sur République Sénat ce matin.
Ce gouvernement, je le répète, a été élu démocratiquement.
Qu'est-ce qu'on fait des 42 migrants qui sont dedans ?
On peut soigner des individus quand il y a des problèmes sanitaires, leur tendre la main, mais on les raccompagne ensuite d'où ils viennent. Ils n'ont pas vocation à venir parce que la logique de tout cela, c'est que demain, ce sera un second bateau, puis 10, puis 20, et que vous avez des ONG qui mettent les gouvernements démocratiquement élus devant le fait accompli. Ce n'est pas acceptable.
J'aime, Chéron, toujours cette Europe qui n'avance pas, et pourtant ce dossier des migrants est au cœur des préoccupations européennes. Que dites-vous des arguments de Sébastien Chenu ?
On est dans la caricature, ça fait des années ou des décennies qu'on nous dit que ça va être l'invasion migratoire. Le maire de Lampedusa lui-même s'est offusqué ces dernières heures en disant que Salvini en faisait peut-être un peu trop, qu'il avait dans le courant du mois de juin à Lampedusa recueilli 600 migrants et que personne n'avait rien dit et que là, d'un seul coup, sur 40, ça devenait les 40 de trop. Je crois que tout ça n'est pas forcément très raisonnable. Personne ne dit d'ailleurs, au-delà des propos de principe comme cela, il faut tous les renvoyer techniquement, comment on fait ? Le bâton, on le renvoie à la mer, on les laisse couler, sombrer, se noyer. Combien de noyés ? Combien de dizaines de milliers de noyés déjà au fond de la Méditerranée ? Je crois qu'il faut y aller avec un peu plus d'humanité. On a l'armée française dispose de navires qui sont des bâtiments d'assistance et de soutien qui, dont l'une des missions est d'aller justement porter secours à des gens qui, en mer, sont en train de perdre la vie à cause de naufrages de navires. Ouais. Donc, je pense que la question n'est pas de 40, la question est de façon beaucoup plus générale de qu'est-ce que l'Europe souhaite en termes de migration, quel type de migration, les réfugiés qui sont des réfugiés politiques, les personnes qui viennent chercher plus de d'aisance économique, pardon si l'expression n'est pas très belle, mais ça je pense qu'on peut aussi l'entendre, et là on doit effectivement transformer l'Europe, pour revenir à votre sujet européen, pour faire en sorte, peut-être un peu à l'instar du Canada, que chacun des pays maîtrise combien il veut et la qualité des migrants qu'il est prêt à accueillir sur son territoire, et que ce soit à l'échelle de l'Union européenne que l'on organise et que l'on gère tout cela. Il est aujourd'hui insatisfaisant, je pense, qu'un certain nombre de pays, je pense notamment à M. Orban et à la Hongrie, demandent aux pays qui ont des frontières extérieures de gérer finalement ses propres frontières et ses propres flux migratoires. C'est très hypocrite.
Oui. Claudie Méjean, vous diriez la même chose que votre collègue. Et ma question, c'est les maires de France sont-ils candidats pour accueillir plus en avant, plus encore, c'est pas très compliqué, hein, les migrants dans les petites communes?
Bien sûr, je crois que c'est peut-être une des solutions, et je partage l'avis de mon collègue, maire.
Bien sûr, oui.
Voilà. Mais il est important que la France prenne sa part de responsabilité dans cette question des migrants. Et je crois qu'elle peut s'appuyer sur les petites communes, les 36 000 communes, les petites et les moyennes et les grandes communes de France, parce que nous avons la capacité et je crois la solidarité qui existe dans nos communes et qui peut se mettre en œuvre facilement.
François Dorcival, pour Matteo Salvini, je le cite, hein, Carola Rackete est une pirate. Commentaire ?
Le commentaire, c'est de reprendre le dossier tel qu'il est. Premièrement, c'est ce bateau qui était donc commandé par ce capitaine qui est aujourd'hui jugé par la justice italienne, qui sera ensuite remis en liberté, etc. Ce bateau transporte 42 migrants. C'est exactement le même type de navire que l'Aquarius il y a deux ans, qui lui ont transporté 600. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il s'est passé entre-temps que Salvini, le ministre de l'Intérieur et au fond le personnage, l'homme fort du gouvernement italien, a annoncé que désormais on n'accueillait plus en Italie les migrants. La conséquence de ça, c'est qu'on a beaucoup moins de noyés en Méditerranée qu'il n'y en avait les années précédentes. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Et la démonstration est faite.
Vous donnez raison à Matteo Salvini ce soir.
Je donne pas raison, je montre. Je montre. La question du jugement moral est une autre affaire. En revanche, ce que je montre, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup moins de noyés en Méditerranée qu'il n'y en avait quand Salvini n'était pas là. Et d'autre part, que le bateau qui, comme l'Aquarius, fait quand même de la provocation, puisqu'il a longé les eaux territoriales italiennes pendant 14 jours. Si c'est pas de la provocation, qu'est-ce que c'est ? On peut transporter ces migrants sur toutes sortes d'autres ports que forcément un port italien. Donc il y avait dans cette affaire une intention politique. Il n'empêche qu'il n'y avait donc que 42 migrants et non pas 600. Ce qui signifie que les routes de la Méditerranée ne sont plus ce qu'elles étaient par la volonté politique d'un seul homme.
Stéphane Vernet.
Ben, je pense qu'effectivement, il faudrait arriver à organiser les choses au niveau européen. La réponse, elle doit être européenne. Le problème, c'est que c'est les États membres eux-mêmes qui, jusqu'à aujourd'hui, ont refusé de lâcher la main et de lâcher le dossier, d'accepter que finalement l'Europe gère ces questions-là à son échelle. Ce sont les chefs d'État qui ont décidé de garder les prérogatives sur tout ce qui concernait l'immigration. Et aujourd'hui, avec l'Italie, on se retrouve face à un gouvernement qui a décidé de fermer ses frontières. frontière à la manière dure. Donc vous disiez pour Salvini, Carola Rackete est une pirate. Et pour lui, il n'est pas qu'une pirate. Il a aussi traité d'emmerdeuse, en fait. Excusez-moi. Et il a parlé d'actes criminels, d'actes de guerre. Et en face, on a la France qui dit non, mais il y a une hystérisation d'une stratégie d'hystérisation. Et je pense que on en est effectivement là. Il y a deux façons de voir les choses et deux façons d'aborder le problème qui sont radicalement différentes. Ce que je trouve, moi, frappant dans cette histoire, au-delà du drame humain que ça représente, c'est qu'il y a encore, il n'y a pas si longtemps, toutes ces ONG étaient des auxiliaires, des supplétifs. Elles aidaient les bâtiments de guerre, les bâtiments de marine nationale des différents pays à secourir les migrants en Méditerranée. Aujourd'hui, elles font toujours le même boulot, sauf que vous avez l'Italie qui a décidé de criminaliser cette action qui, autrefois, il n'y a pas si longtemps, était une action d'assistance.
Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que François Dorcival sur la question, apparemment.
Mais il y a deux visions totalement, radicalement différentes d'aborder la question.
Sauf la base, c'est ce à quoi on assiste. Ce sont les bateaux. C'est-à-dire les bateaux pneumatiques dans lesquels les trafiquants, parce que c'est quand même ça, les trafiquants font traverser la Méditerranée à de pauvres gens.
Mais oui, mais ces gens-là, ils meurent. Donc il faut bien les secourir.
Beaucoup d'argent.
Vous avez raison, François Dorcival, mais quand le bateau arrive devant vos portes, que faites-vous? Elle est là la question. Alors vous demandiez, Jean-François Akili, si les maires étaient prêts à accueillir dans leur commune. Oui, ils le sont. Il y a quelques années, lorsqu'il y a eu les premières grandes vagues de migration, le gouvernement a dit il va falloir que nous en accueillions en France. Un certain nombre de communes, la commune de Montereau, s'est portée volontaire. Et là, il y a une défaillance dans le système de l'État qui est incapable d'orienter les familles vers les communes qui étaient volontaires. Alors nous avons finalement réussi à avoir, je crois, 3 familles qui sont encore aujourd'hui à Montereau et extrêmement bien intégrées et qui n'ont absolument pas mis en péril l'équilibre de la société ni de Montereau, ni du département de la Seine-et-Marne, ni de notre pays. Et si je ne vous en parlais pas, vous ne le sauriez pas. Nous avons 36 000 communes en France. Oui. Le président de la République a dit que là, sur les 42, la France pourra en accueillir 10.
Une dizaine.
Mais oui, parce que les Allemands font la même chose, etc. Et que c'est une proportion, hein, c'est un quota. On adore les quotas.
Ah. Je crois que c'est la clôture donc de cet échange. Claudie Méjean, vous nous dites au fond ce soir qu'il faudrait faire part d'humanité. C'était un peu votre message.
Hein, oui, c'est un message
local. Oui.
Humanité, solidarité, simplement solidarité.
Allez, 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Léo Técher.
Emmanuel Macron en colère après l'échec du sommet européen. Il fustige des réunions trop longues qui ne mènent à rien. 20 heures de palabres, selon lui. Les négociations ont duré toute la nuit dernière. Elles reprendront donc demain pour nommer, entre autres, le nouveau président de la Commission européenne. L'audition de la capitaine du Sea-Watch est terminée en Italie. Carola Rackete, entendue par un juge en Sicile, elle pourrait être libérée. Contrairement à ce que demande le ministre Matteo Salvini, la capitaine allemande avait accosté de force avant-hier dans le port de Lampedusa avec 40 migrants à son bord. Le président de la Tunisie est sorti de l'hôpital ce soir. Il reprendra même le travail dès cette semaine. Selon son fils, Béjikaï Desepsi est âgé de 92 ans. Il avait fait un grave malaise jeudi. La mère de Vincent Lambert appelle les Nations Unies au secours. La Cour de cassation française a ouvert la voie à un nouvel arrêt des soins de son fils en état végétatif depuis plus de 10 ans. La canicule persiste dans 13 départements ce soir le long de la vallée du Rhône en descendant vers le sud. Vigilance orange également pour les orages dans 6 départements de Rhône-Alpes. Et puis, le coup d'envoi des rencontres de la photo ce soir à Arles. 50 expositions pour les 50 ans du festival. Et pour l'occasion, les rencontres présentent leurs premières archives. 3300 œuvres collectionnées. Parmi elles, des photos de Robert Doisneau.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Akili.
Étonnante séquence hier soir sur le plateau du 20h de France 2. L'ancien président Nicolas Sarkozy face à Laurent Delahousse. On va entendre un court extrait et ce qu'en a dit Claude Guéant ce matin sur France Info.
Mais aujourd'hui, ma place n'est plus là. Elle n'est plus là définitivement. Parce que dans la vie politique partisane, si je revenais, ça amènerait de la confusion et il n'y en a vraiment pas besoin.
Si d'aventure il y avait une situation grave en France qui fasse que beaucoup de Français aient envie de recourir à lui, je crois qu'il serait prêt à se remettre au service de la France et des Français. Spontanément, il ne reviendra pas, c'est clair.
Mais il reste un recours
possible. Il reste un recours, à mes yeux, oui.
James Chéron, maire centriste, hein, centre droit, hein, de Montereau, quand vous voyez l'ancien président Sarkozy aux 20h, qu'est-ce que vous vous dites ?
C'est sa décision, c'est son choix. C'est un ancien président de la République. Il a d'ailleurs peut-être une voix à continuer à porter dans le débat public ou au-delà du débat public, sans forcément prendre une part dans l'arène. Il n'a pas forcément besoin d'être candidat à une élection, de diriger un parti pour que sa voix puisse porter. Et je crois que chacun à sa place peut continuer à contribuer au débat. Beaucoup l'ont fait avant lui et il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas le faire.
Claudie Méjean, en tant qu'élu local, si je puis dire, maire d'une commune dans l'Aude, il s'agit de Bram, cet ancien président-là avait pris des décisions, hein, notamment la taxe professionnelle et autres. Aujourd'hui, Emmanuel Macron se promet d'ouvrir une nouvelle étape de la décentralisation. Tous ces présidents qui se sont succédés, dont François Hollande, que vous avez soutenu, j'imagine, oui, en tant que socialiste, est-ce qu'ils ont fait du bien à la décentralisation commune ?
Alors la décentralisation, c'est évidemment quelque chose de très important à l'échelle de nos communes. Je crois que la nouvelle étape de décentralisation qui s'annonce, que vient d'annoncer Emmanuel Macron, hein, surtout sur la question de la trésorerie, hein, de la disparition de nos trésoreries qu'il cache sous un discours de déploiement de proximité. Je crois que c'est une étape qui va encore une fois nous marquer, qui va encore une fois isoler nos territoires puisqu'on parle de disparition de nos trésoreries. Je crois que encore une fois la décentralisation telle qu'elle est pratiquée par Emmanuel Macron, telle qu'elle a été pratiquée par Nicolas Sarkozy, c'est pas ce que nous attendons, nous élus locaux.
Oui, Stéphane Vernet, le Nicolas Sarkozy que nous avons vu hier soir, c'est le recours ou c'est le non-retour ?
Bah, il a été clair, il dit qu'il il veut pas revenir, mais ce qui est intéressant, c'est l'analyse qu'en fait Claude Guéant sur votre antenne le lendemain. En fait, c'est un scénario à la De Gaulle, il ne reviendra pas spontanément, mais si le pays a besoin de lui et l'appelle, alors oui, il reviendra, etc. Bon, c'est moi je pense qu'il est aussi en train de faire la promotion de son livre et vous aviez dimanche dans le JDD un sondage qui a été fait par l'IFOP qui montrait que 76% des Français n'avaient pas envie qu'il revienne et je pense qu'il en a vraiment pas envie lui-même, c'est-à-dire que il me semble que c'est quand même un homme qui s'est beaucoup investi pour le pays, pour sa famille politique et à mon avis il reste des traces de la primaire de 2017.
François, les Républicains l'ont pas choisi, je pense.
Mais une trace aussi antérieure, parce que tout à l'heure, vous l'avez entendu dire définitivement. Je ne reviens, définitivement. Or, cet adjectif définitif figurait dans la déclaration, dans le discours qu'il devait prononcer le soir du 6 mai 2012, quand il a été battu par François Hollande. Et ce définitif, il l'avait rayé. Il l'avait rayé. Et en effet, 2014, il revient comme président des Républicains. 2016, il se soumet à la primaire. Et c'est là, en effet, que ce fut une défaite grave pour lui, y compris du point de vue de l'affection, de l'émotion et sentimentale.
Ouais. Alors, Claudie Méjean, ça, c'est la grande politique, hein, avec un grand P majuscule que l'on évoque tous les jours dans les médias. Vous avez été distingué à Bram, dans l'Aude, par l'AMF. Famille et jeunesse, qu'avez-vous fait ?
Eh bien, en fait, on a mis en place un système pour qu'on a appelé des tremplins jeunes. Donc, il s'agit de permettre aux jeunes de 20 ans d'accéder aux emplois saisonniers. Alors, on le fait beaucoup dans nos communes. On accueille dans nos communes des emplois saisonniers et des jeunes pour leur donner un petit coup de pouce. Eh bien, on a amélioré le dispositif en leur permettant de travailler sur une lettre de motivation, un CV et un entretien d'embauche. Les mettre dans les conditions d'être embauché, de chercher un emploi et donc une première expérience d'entretien d'embauche, d'écriture de CV, de lettre de motivation.
Et vous, James Chéron à Montereau, c'est plutôt dans le numérique.
Nous avons décidé de donner une claque à la fatalité.
Voilà, c'est une belle formule ça.
Ouais, nous avons observé que nos bacheliers poursuivaient moins d'études supérieures que les bacheliers du reste de la région ou du pays. Et on s'est dit que si nos étudiants n'allaient pas à l'université, eh bien, il fallait que l'université vienne à eux et nous avons inventé, Yves Jégot, mon prédécesseur, a imaginé et je mets en œuvre un tiers-lieu d'enseignement supérieur à distance. C'est une expérimentation qui est née à Montereau il y a 2 ans, qui aujourd'hui inspire beaucoup puisqu'à la rentrée de septembre prochain, plusieurs dizaines de lieux comparables à celui-ci vont apparaître un peu partout en France. Et c'est un dispositif qui démarrait à Montereau avec 4 bouts de ficelle à la mairie de Montereau, est aujourd'hui soutenu par la région Île-de-France pour le territoire de l'Île-de-France et désormais par le gouvernement dans le cadre d'un dispositif Campus Connecté présenté par la ministre de l'Enseignement supérieur à Montereau il y a quelques semaines.
Voilà encore deux exemples qu'il fallait mettre en valeur ce soir rapidement avec vous. François Dorcival, la une de Valeurs Actuelles.
Thierry Ardisson dit toutes ses vérités au système médiatique.
Ah, et Stéphane Vernet, la une de Ouest-France.
Nous, on parle du blocage européen. J'espère qu'on va réussir à l'expliquer clairement, parce que c'est pas si compliqué quand on s'y intéresse, et c'est crucial ce qui est en train de se passer en ce moment.
Et merci à vous, Claudie Méjean, maire de Bram, et vous, James Chéron, maire de Montereau, de nous avoir fait partager votre vision de la politique, et puis de ce que vous produisez, on va dire, chez vous, chez soi. Et qui doit servir, je le répète une fois de plus, d'exemple pour que ce pays avance. C'est un peu ce qu'on se dit ce soir avec vous, les élus de l'AMF. Merci, 20h58 sur France Info, c'est la fin des informés. Je vous retrouve demain soir pour une toute nouvelle édition. Bonne soirée.